Cœur Club. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Bonjour Stéphane Covio.
Bonjour Christophe Maury.
Vous connaissez l'impasse Ronsin ?
Ben alors écoutez, j'aurais bien aimé la connaître.
L'entrée se situe entre le 150 et le 152 rue de Vaugirard. L'impasse mesurait 125 mètres de long et 8 mètres de large. Elle a été absorbée malheureusement dans les années 80 par l'agrandissement de l'hôpital Necker Enfants Malades. Mais au numéro 8 de cette impasse Ronsin, il y avait l'atelier de Constantin Brancusi. Brancusi, c'est un sculpteur, il était né en Roumanie en 1876, il est mort à Paris en 1957 et il est enterré au cimetière de Montparnasse à côté. Il était donc au numéro 8 et puis ensuite jusqu'à son décès, il est allé au numéro 11 et c'est lui. Qu'on va aller visiter, Constantin Brancusi. On va aller le visiter au centre Georges Pompidou, Beaubourg, si vous préférez, Galerie 1, où une exposition exceptionnelle vous attend jusqu'au 1er juillet. C'est une exposition dont la matrice est précisément la reconstitution de l'atelier de la rue Ronsin. Quand pour la première fois je vis le sculpteur Brancusi dans son atelier, je fus impressionné plus que par n'importe quelle cathédrale. J'étais sidéré par la blancheur et la clarté de la pièce. Entrer dans l'atelier de Brancusi, c'était pénétrer dans un autre monde. Et c'est Man Ray qui écrit ça. L'atelier, en effet, est à la fois le musée de sa création et une œuvre en soi, tout ou presque est faite de sa main, la cheminée, les tables, les tabourets, les haut-parleurs qu'il encastre dans des blocs de pierre. Alors, Constantin Brancusi est-il l'inventeur de la sculpture moderne? On le dit. On le voit à travers plus de 120 sculptures ici exposées et 400 œuvres présentées. La commissaire de l'exposition, Ariane Coulondre, conservatrice en chef des collections modernes au Musée national d'art moderne, explique que Brancusi, c'est une triple révolution. Une révolution du geste, une révolution de la forme et une révolution de l'espace. Stéphane Covio.
Eh bien, par quoi commencer ? Vous avez parlé de l'impasse Ronsin tout à l'heure. Alors, il est possible de découvrir dans le quartier de Montparnasse des endroits qui ressemblent à l'impasse Ronsin. Il en reste beaucoup, heureusement, de ces allées privées, bordées d'ateliers, qui sont toujours occupées par des artistes. Alors, certains sont devenus des lofts, hein, mais il reste aussi beaucoup d'ateliers d'artistes du côté de Montparnasse. Alors oui, vous avez décrit l'impression qu'avait eu Man Ray en entrant dans l'atelier. C'est une impression qu'ont eu beaucoup de gens.
Oui.
C'était, à un moment donné, un rituel mondain à Paris que d'obtenir sa visite dans l'atelier de Brancusi. Alors, il n'y avait pas que des mondains qui y allaient, il y avait des amateurs.
Il y avait Eric Satie.
Oui, bien sûr. Et là, pour le coup, on est du côté des amateurs et des amis. C'est vrai que Brancusi a fait de son atelier un lieu d'exposition de ses œuvres. Pendant les 20 dernières années de sa vie, on va dire plutôt les 12, 13, 14, 15 dernières années de sa vie, il n'a plus vraiment produit de sculpture, mais en fait, il se bornait à vendre des sculptures qu'il avait chez lui. Et une fois qu'elles étaient vendues, eh bien, il les remplaçait par un moulage en plâtre ou par un moulage en bronze. Et les amateurs venaient dans l'atelier. Ils étaient conduits par Brancusi, qui avait cette grande barbe, qui était vêtue de couleur claire aussi. La couleur blanche était évoquée par Man Ray. Et puis, il avait tout un art de présenter ses œuvres. On dit aussi qu'il avait des voiles qui étaient posées sur des bronzes, certains bronzes. Et puis, quand les gens approchaient, ils retiraient le voile. Et d'un seul coup, on avait cette lumière qui se reflétait dans le bronze, ce bronze extrêmement poli, qui devient un miroir. Et là, on en reparlera à propos de l'exposition. Et en 57, à sa mort, il a légué son atelier au Musée d'Art Moderne, à Paris, au Musée National d'Art Moderne. Et donc, il y a eu cette reconstitution de l'atelier sur le parvis du Centre Pompidou. Alors, l'exposition actuelle n'est pas uniquement l'exposition de ce qu'il y a dans l'atelier, il y a des œuvres qui viennent d'un peu partout.
Évidemment, il y a beaucoup de prêts.
Il y a beaucoup de prêts, et c'est une exposition passionnante.
Et c'est une exposition passionnante. Alors, il faut dire que lorsqu'il arrive à Paris, il arrive à pied, dites donc, de Roumanie. Il arrive à pied. Et puis, il va tout de suite se mettre en lien avec Rodin. Et il va devenir l'assistant de Rodin. Mais pendant un an, les deux hommes vont se fâcher ensuite.
Alors, le proverbe le plus célèbre de Brancusi a trait à ce séjour chez Rodin. Rien ne pousse à l'ombre d'un grand arbre. Alors, je ne sais pas si c'est de Brancusi ou si c'est quelque chose qui le précédait dans la langue française, mais enfin, en tout cas, c'est celui qui en a eu l'usage le plus célèbre.
Et alors, lui, il travaille en taille directe et avec des formes simples. Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de moulage. Là, il n'est pas question de moulage. On travaille, et c'est toute la révolution de la forme, c'est-à-dire qu'il a travaillé la matière pour essayer de trouver la pensée de la matière.
C'est un tailleur de bois, c'est un tailleur de pierre. Ouais. À un moment donné, il va abandonner le modelage. Vous savez que Rodin a très peu taillé la pierre. Hein, et donc, il faisait tailler, lui, il modelait.
Oui.
Et il avait ce qu'on appelle des praticiens qui taillaient la pierre à sa place. Brancusi, lui, va aller directement en contact de la pierre avec les outils adaptés. Et puis, en revanche, démoulage, il en fera, hein, puisque vous avez son processus de travail le plus classique, c'est de tailler la pierre et après de faire un plâtre et de faire un bronze, vous voyez, à partir de moulage de la pierre. Vous parliez de la stylisation, de la simplification. Il y a une vitrine qui est tout à fait éloquente dans l'exposition, au début de l'exposition, où on voit un buste qui est... Alors, vous savez, il a été formé en Roumanie avant d'arriver en France. Il a été à l'école des Beaux-Arts de Bucarest. Il a été avant dans une école d'art de la région, de sa région d'origine, qui est vers le sud-ouest de la Roumanie, là où se trouve une partie des Carpates. Et donc, il est d'une famille paysanne. J'en parle parce qu'en fait, il avait dans sa famille, dans ses ancêtres proches, des gens qui taillaient le bois. Des charpentiers menuisiers, c'est un geste donc qu'il a connu, et c'est un matériau qu'il a vu dès son enfance travailler localement. Et alors, quand il a appris la sculpture, il a appris la sculpture tout à fait classique. Et on a cette vitrine dans laquelle on voit le buste d'un enfant en bronze, qui est très réaliste, très, très sensible, très, très fidèle aux apparences. Et puis on voit juste après un enfant ou un bébé en train de dormir en marbre avec le visage allongé dans ses bras. Il y a des déformations, le visage est plus grand qu'il ne devrait, les bras sont un peu plus petits, mais alors on sent parfaitement l'ensommeillement, le côté très tendre de cet enfant enfoncé dans son sommeil. Et puis après, on voit juste une tête posé sur l'oreille, très simple, avec les yeux clos, une surface mate blanche, très très belle, des cheveux à peine sculptés. On pense à Michel-Ange en voyant cette matière un peu inachevée. On pense aussi à Rodin, bien sûr, puisque Rodin va pratiquer ce qu'on appelle le fragment avant que Brancusi le fasse. On pense que c'est chez lui qu'il a pris cette idée. Et puis, après, on voit un ovale encore moins précis, mais on devine la présence des yeux, on devine la présence du nez, une toute petite bouche, voilà. Et après, on a un quasi-œuf.
Oui. Hein,
et on a ce processus-là qu'on voit dans cette vitrine qui est vraiment très éloquent sur la manière de travailler de Brancusi.
L'enrichissement par la simplification.
Alors, oui, tout à fait.
Et lui disait, la main pense et suit la pensée de la matière.
Alors ça, c'est très important. Ouais.
C'est très important. Ouais.
La main. Et je pense qu'il a beaucoup... Alors, vous savez, il y a des écrits de Brancusi.
Oui.
Ou plutôt, il y a des paroles de Brancusi. C'est quelqu'un qui parle peu, mais qui parle bien. Il a produit des aphorismes.
Oui.
Et donc, il y a un certain nombre d'aphorismes. C'est intéressant, les aphorismes, parce que c'est condensé, un aphorisme. Et un peu comme sa sculpture, vous voyez.
Oui, oui.
Parlons peu, parlons bien. Et il y a une dimension poétique aussi, parfois. Il parle de la simplicité. On sent bien que parfois, il réagit à des commentaires qui ont été faits de son travail où on a envisagé qu'il était dans des jeux de forme, finalement des jeux de surface. Parce que cette simplicité ou cette simplification n'est pas un but en soi, dit-il dans un de ses aphorismes. Alors, il faudrait voir le texte original. Et en fait, c'est ce qui est advenu quand il a suivi sa nécessité intérieure, en suivant l'objectif d'être réel et d'être vrai, de toucher au réel et de toucher au vrai, à ce qu'il appelle aussi l'essence du réel et du vrai. Et c'est ça qui l'a amené à simplifier.
Le thème de l'oiseau est très important chez lui. Il l'a décliné tout au long de sa vie. Il a réalisé 29 oiseaux dans différents matériaux, essentiellement en bronze et en marbre. Et il dit « Je n'ai cherché pendant toute une vie que l'essence du vol. Le vol, quel bonheur !»
Alors,
et c'est quand même terrible, parce qu'on a un oiseau en marbre qui est lourd, dont on sent le poids, et il va chercher l'essence du vol.
Alors moi, ce que je trouve intéressant, évidemment, quand vous prononcez le mot oiseau, je pense tout de suite à cette sculpture, cette série de sculptures qu'il a réalisées, qu'on appelle l'oiseau dans l'espace. Alors, il y a un aphorisme de Brancusi aussi dans lequel il dit qu'il faut se méfier des titres, que pour lui, les titres n'ont aucune valeur, ce sont juste des numéros, et que la littérature est antinomique avec les arts plastiques. Et c'est très important, ne serait-ce que quand on parle d'oiseaux. Vous voyez, par exemple, cette sculpture qu'on appelle l'oiseau dans l'espace. Mmh. Si vous la présentez à des gens et que vous ne prononcez pas le mot oiseau, mais il y a une personne sur cinq qui va prononcer le mot oiseau. Les autres vont dire autre chose. Les autres vont dire flamme. Les autres vont dire lance, vont dire poisson. Figurez-vous. Vont dire des choses comme ça. Mais toujours quelque chose qui est en lien avec, effectivement, un élancement, une fluidité, une élévation, pourquoi pas, puisqu'il est dressé, cette sculpture est dressée, hein, verticalement, avec, comment dire, quelque chose d'aérodynamique.
Oui.
Pour ça, le rapport avec le poisson est très présent. Alors,
Oui, et justement, sur le poisson, il explique, quand vous voyez un poisson, vous ne pensez pas à ses écailles, vous pensez à la vitesse de son mouvement, à son corps étincelant et flottant, vu à travers l'eau. Eh bien, voilà ce que j'ai voulu exprimer. Si j'avais rendu ses nageoires, ses yeux et ses écailles, j'aurais arrêté son mouvement et j'aurais obtenu un simple échantillon de la réalité. Moi, j'ai voulu saisir l'étincelle de son esprit.
Mais voilà. Voilà, en cherchant à saisir ça, voilà. Eh bien, il va être amené à simplifier, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure.
Oui.
Avec les
Donc différents. L'oiseau, c'est le vol, et le poisson, c'est l'étincelle de son esprit.
Et l'oiseau, c'est pas seulement le vol,
ouais.
Figurez-vous, c'est pas seulement le vol. Bah, lui a utilisé le mot vol, mais quand vous regardez l'œuvre, c'est pas seulement le vol. Il y a des amateurs de Brancusi, par exemple un ami très proche qui a failli écrire une petite biographie de Brancusi, qui est un musicien roumain qui a passé pas mal de temps avec lui, et dit que ça peut être aussi un oiseau qui chante.
Mm-hmm.
Et vous voyez, effectivement, il a son bec levé vers le haut, et il y a quelque chose comme un... S'il y a un thorax, s'il y a qui est gonflé, vous voyez, une espèce de renflement vers l'avant, et une espèce de cambrure aussi de cette forme qui s'élève, et ça pourrait parfaitement l'expulsion d'un son vers le haut, ou d'une respiration, ou même une aspiration d'une respiration.
Alors, Brancusi était mélomane, il écoutait beaucoup de musique, il en faisait écouter à ses amis. On passe tout le temps à écouter des disques, dira Peggy Guggenheim, venu à Paris pour lui acheter un oiseau, précisément. Il n'aime pas la musique classique, il aime la musique contemporaine, comme ce début du concerto pour piano de Ligeti. Pierre-Laurent Aymard au piano, l'ensemble intercontemporain que dirigeait Pierre Boulez dans cet extrait du concerto pour piano de Georgi Ligeti. Je vous l'accorde, j'aurais pu choisir Louis Armstrong ou Duke Ellington également dans la discothèque de Brancusi. Alors parlons maintenant, si vous le voulez bien, entrons dans les salles.
Ouais.
Vous avez parlé de cette vitrine épatante, justement, où on voit le nouveau-né jusqu'à l'œuf.
Ouais. Alors, au début de l'expression, il y a un parcours qui est en deux temps, en fait. Qui est d'abord dans une forme d'obscurité, avec des panneaux noirs, et en fait, avec des vitrines remplies de documents, de photos, de lettres, on apprend plein de choses, etc.
Alors, sur la photo, je cite Eman Ray tout à l'heure, les deux hommes seront très liés à partir des années 20. Eman Ray l'initie à la photographie, qui devient un support de réflexion, la métamorphose de la forme, et qui permet de révéler ce qui n'est pas sensible au premier regard. Et il va prendre beaucoup de photos de ses œuvres, dans tous les sens, et avec toutes les lumières, et ça va être aussi un travail très intéressant.
C'est vrai, parce qu'on
pourrait
faire une exposition de Brancusi photographe.
Absolument.
Ouais. Et puis il est aussi entouré d'excellents photographes. Vous avez parlé de Man Ray, il y a aussi Steichen, qui est un de ses amis, et qui a fait de sublimes photos de Brancusi dans son atelier au travail, systématiquement avec un outil à la main, attaquant la pierre, attaquant le bois, portant, vous voyez. Et on sent bien que, je pense que Brancusi était désireux de cette image-là d'un ouvrier au travail. Vous parliez de la main tout à l'heure, c'est absolument essentiel.
Alors, donc, Edward Sachsen, que vous évoquez, qui est un photographe américain, va être arrêté par les douanes américaines qui soupçonnent Brancusi de faire passer un étrange objet métallique, il s'agit de l'oiseau dans l'espace, et pour une œuvre d'art, afin de ne pas payer les taxes à l'importation. Alors, il va y avoir un procès qui va suivre et qui soulève la question de la ressemblance entre l'œuvre et son sujet, et au-delà, qui interroge la question de la définition de l'art. Est-ce que l'objet de Brancusi est-il une œuvre ? Et ça va, le procès va être incroyable. Et en 1928, le juge reconnaît, je cite, qu'une école d'art dite moderne s'est développée, dont les tenants tentent de représenter des idées abstraites plutôt que d'imiter des objets naturels. Et il va remporter son procès, et par conséquent, Edward Sachsen, le photographe, pourra apporter aux États-Unis des œuvres de Brancusi sans avoir à payer la douane.
C'est vraiment un épisode amusant de l'histoire de l'art d'une manière générale.
Mais oui, parce que ça demande une définition juridique de l'art.
Ouais, tout à fait. Alors donc là, on est dans cette première salle, justement, cette longue salle en enfilade, qui commence quand même par quelques œuvres importantes, notamment une partie du travail sur le bois. Il a réalisé du mobilier. Un mobilier tout simple, des tabourets, des encadreurs de portes. Et on voit que c'est dans un bois plein. Il y a un sens de la massivité du matériau bois, je suppose du chêne, en tout cas très veiné, avec un côté brut. Et c'est là qu'il y a un lien avec l'enfance et la pratique de du travail du bois en Roumanie. Au début, il y a aussi d'autres choses, mais... Donc on a ce long parcours dans l'ombre où il y a un passage dans l'atelier, d'ailleurs avec une reconstitution d'une partie de l'atelier, et puis après on arrive dans la lumière. Et alors là, pour moi, c'est les plus belles salles, bien entendu, parce que c'est véritablement un espace brancusien, j'ai envie de dire, où sont disposés avec beaucoup de respiration.
Oui, et c'est pas de briquet de broc, hein. C'est vraiment tout. Très respecté. Et on respecte l'espace autour de l'œuvre.
C'est un modèle pour moi de scénographie.
Ah oui.
On arrive déjà avec ce groupe de, par exemple, de portraits de la baronne Frachon, d'où est issue ensuite ce qu'on appelle la muse endormie, c'est-à-dire cette tête qui est séparée du buste et qui est simplement allongée sur le côté. Bon. Et ça, pour moi, c'est absolument splendide, ce groupe de 6 bustes, peut-être, qui sont là, 6 têtes, à chaque fois sur des socles qu'il a réalisés lui-même. Parce que chez Brancusi, il n'y a pas que la pièce sculptée là que nous regardons, il y a aussi la manière qu'elle a de nous être présentée sur des empilements, parfois de pierre, parfois uniquement de bois, parfois plusieurs pièces de bois sculptées, assez brutes, sur lesquelles sont posées les bustes.
Et le socle fait partie de l'œuvre.
Et le socle fait clairement partie de l'œuvre. Il est en accord, il est en contraste. Il y a du rugueux, il y a du lisse, il y a des couleurs différentes. Moi, il y en a un que je trouve absolument splendide, qui supporte une statue qui vient des États-Unis, où on voit justement ce portrait de la fameuse baronne Frachon, mais qui n'est plus vraiment elle-même là-dedans. Cette figure féminine quasiment estompée, avec les yeux qui restent apparents quand on est très attentif, on voit que les yeux sont là. Au début, on a l'impression que tout est
lisse.
Et bien non, pas du tout. Il y a des arcades sourcilières qui sont très délicatement présentes sous forme d'angle. Il y a une petite bouche, un petit peu de travers, des obliques. Et en fait, il y a beaucoup d'obliques dans cet agencement. Et on a un nez qui est une espèce d'arête, un nez pincé vertical qui vient redonner de la stabilité à l'ensemble. Tout est d'une extrême délicatesse. On a une image de la féminité douce. Et c'est repris de plusieurs manières là, dans cette grande salle, qui est une série de portraits féminins, notamment autour de Mademoiselle Pogani. Alors, Mademoiselle Pogani, c'est une des images les plus célèbres, me semble-t-il, de Brancusi. C'est une jeune femme qu'il a rencontrée en France, qui était, je crois, hongroise et qui venait apprendre à peindre, parfaire sa formation de peintre à Paris. Elle a rencontré Brancusi et puis ils se sont vus quelques temps, pas longtemps, je crois à peu près un mois. Et puis quelques temps après, il a fait de mémoire un portrait d'elle. Et là aussi, il a fait 3 versions de ce portrait. Donc, et les 3 versions sont là. Il y en a une en plâtre et une en bronze qui sont issues du même modèle. Et on est là avec une extrême délicatesse, quelque chose d'un peu japonisant. Et puis on voit comment, là aussi, la stylisation a opéré. Et puis comment, dans le deuxième La deuxième version, qui est réalisée quelques années après, la stylisation va encore plus loin. Et la troisième, c'est amusant, on est dans les années 30 et on a véritablement quelque chose qui est art déco. Là, franchement, je trouve qu'on a un motif art déco
absolument.
En plein de cette...
Et on sent que ça le traverse.
Ah oui, oui, tout à fait.
Absolument.
Ah oui,
et ça, c'est très impressionnant parce que il est au-dessus de tout, finalement.
Il est au-dessus de tout et en même temps, il est traversé par les influences du moment.
Voilà, absolument.
Et il n'appartient pas à un courant.
Non.
C'est quelqu'un tout à fait individuel. Il n'est
très libre.
Il est très libre, il n'est pas affilié à une galerie.
Non.
En revanche, il est très en lien avec un certain nombre d'amateurs avec lesquels il a une relation personnelle. Il compte beaucoup sur des amitiés très fortes, comme celle de Marcel Duchamp et de Henri Rocher.
Oui, mais c'est toute la bande de Montparnasse. Hein.
Voilà, exactement. Et qui servent d'intermédiaire avec des amateurs, notamment américains. Et il va très vite avoir des expositions à New York une clientèle américaine très fidèle.
Et il est très... Alors, donc il y a toute la bande de Montparnasse, effectivement. Et puis alors, il traîne au Trocadéro. Et à peu près au même moment que Picasso, d'ailleurs, il rencontre l'art nègre, enfin, l'art de l'Afrique subsaharienne. Et là, il est très marqué par l'âme. Et il faut dire qu'il n'y a pas de vraie sculpture sans âme.
Oui, alors ça, on retourne au début de l'exposition où effectivement, il y a un passage par les influences. On a évoqué Rodin comme influence. Il y a évidemment tout ce que sont les influences, on va dire primitives, qui amènent les artistes de cette époque-là vers la simplification. Il y a la Grèce cycladique. Il y a une idole cycladique qui est là. On voit très bien le lien, on dirait quasiment à Brancusi. Il y a évidemment les arts africains qui sont là représentés. On voit quelques statues là dont je ne me souviens plus l'origine précise. Et on voit juste à côté un projet de petits garçons apprenant à marcher, un bambin étant debout sur ses jambes pour la toute première fois, et qui est simplifié à l'extrême. Et là, c'est un dessin dont je parle, mais on a l'impression, en voyant le dessin, d'une statue africaine. On voit vraiment le lien entre ce qu'il produit là et cet art d'Afrique que l'avant-garde découvre dans ces années-là.
Et qui va permettre une stylisation et quelque chose de très, stylisé, de très dépouillé.
Dépouillé, de fort en même temps,
oui.
Avec un sens du matériau. Tout à l'heure, on évoquait les quelques portraits féminins. Alors, il y a quelque chose à développer sur Brancusi et les femmes.
Oui.
C'est un homme qui a une puissance de séduction assez extraordinaire. S'est exercé de manière très forte sur pas mal de femmes, des mécènes américaines, des élèves, alors évidemment, il aime la femme comme modèle, alors il a eu des maîtresses aussi, et les femmes l'aiment en retour très très fortement. Je pense que c'était un homme d'une extrême gentillesse, extrêmement délicat, très doux. Je pense qu'il y a une sensualité chez lui aussi, très, me semble-t-il. Et une joie de vivre. Oui, très
et clairement. Ça, c'est extraordinaire parce que ça se ressent dans les objets et ça se ressent dans cette sculpture. Il n'y a aucun tragique.
Et il y a une recherche. Il dit le bonheur, c'est quand notre essence individuelle entre en contact avec l'essence au sens large.
C'est-à-dire
il y a évidemment une dimension spirituelle. On pourrait introduire le divin là-dedans. Je pense que lui le fait. Il y a pas mal de témoignages de gens qui l'ont entendu. Il y a une dimension de profondeur essentielle pour lui. Il y a un lien fondamental entre la création et la foi. Une foi qui n'entre pas forcément dans des catégories d'église, on va dire, mais qui est très clairement en lien avec une expérience spirituelle profonde.
Et ça, c'est très marquant, c'est-à-dire cet ancrage dans une foi. Le bonheur, la sensualité, tout ça donne une joie de vivre. Je reprends le titre d'une toile de Picasso, mais une joie de vivre qui est extrêmement séduisante.
Mais lui le dit en plus, clairement, Il y a quelque chose dans sa statuaire qui doit communiquer le bonheur.
Ouais. Alors,
évidemment, il y a bonheur et bonheur. Hein,
bien sûr.
Tout le monde ne sera pas forcément sensible à cette dimension, mais clairement.
Il y a une sérénité.
Ah oui, évidemment, il y a une sérénité. Alors, il y a aussi quelque chose que je trouve absolument formidable dans l'expo, c'est la fin de l'exposition où il est question des animaux.
Oui.
Alors là,
il y a un sacré bestiaire.
Il y a un bestiaire phénoménal et il y a un animal qui est le titre de l'œuvre, c'est Bête nocturne. Je ne sais pas si vous avez été attentif à ça. On a une espèce de pièce de bois parfaitement polie. Il faudrait aussi parler du geste du polissage chez lui, qui est un geste essentiel. Et cet animal, bête de nuit, c'est un mélange entre un castor, un lombric.
Ouais.
Il y a quelque chose dans le museau qui frétille.
Il faut s'arrêter devant
ce bestiaire.
Incroyable. Merci Stéphane Covio. Je rappelle cette exposition Constantin Brancusi qui est à Beaubourg et c'est jusqu'au 1er juillet. Merci Cédric Cobat pour la réalisation, Philippe Malcoche-Fantine, François Dieudonné pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, je recevrai Léa Chavel-Lévy pour son roman Une demande folle. Oui, vous vouliez dire
que dans l'association Venez et Voyez, nous faisons visiter cette exposition qui est magnifique.
Alors, on tape Venez et Voyez sur l'ordinateur et on prendra date avec vous. Donc, d'ici demain, bonne fête à toutes les Catherines, hein, et je vous embrasse.